France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'itinéraire d'un braqueur devenu tueur en série, Pierre Bodin, dit Pierrot le Fou. Au début de l'été 2004, trois corps mutilés sont retrouvés dans la vallée du Grand Ried alsacien, au sud de Strasbourg. Jeanne-Marie, 11 ans, Julie, 14 ans et Edwige, 38 ans, ont toutes vécu de l'innommable, le viol, suivi de la mort par noyade, accompagné d'actes de barbarie. Rapidement, le visage du tueur s'affiche en une des journaux. Il s'agit de Pierre Bodin, un bandit de grand chemin bien connu des Alsaciens. Il a même hérité du surnom de Pierrot le Fou, en référence au film de Jean-Luc Godard. Il faut dire qu'en 2004, ce braqueur multirécidiviste de 57 ans a passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux, baladé entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Retracer le parcours de Pierre Bodin, c'est raconter l'histoire d'une faillite. Celle de la justice, impuissante face à l'implacable mécanique de la récidive, celle aussi de la psychiatrie, incapable de voir que derrière le braqueur fou, se cachait en réalité un tueur en série méthodique obsédé par la virginité. Notre invité aujourd'hui, l'avocat Thierry Moser. Il a plaidé à 4 reprises aux assises contre Pierre Bodin, procès qu'il raconte dans un livre intitulé « Paroles d'avocat », publié aux éditions Lavalette. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Raphaël Pueyo, rédaction chez Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
10 juillet 2004, Colmar, au sud de Strasbourg. En ce samedi après-midi, cette ville de 60 000 habitants a des allures de ville fantôme. Tous les commerçants ont baissé leurs rideaux. Dans le parc, le manège pour enfants ne tourne plus. Et dans le centre-ville, 5 000 personnes déambulent, telles des zombies, au rythme des cloches de l'église. Au-dessus du cortège funèbre flottent les photos de Julie, Edwige et Jeanne-Marie, les victimes de Pierre Bodin, dit Pierrot le Fou. Les habitants sont révoltés. Comment ce dangereux multirécidiviste, condamné aux assises pour des braquages, des viols et des tentatives de meurtre, a-t-il pu bénéficier d'une libération conditionnelle 3 mois avant les meurtres et sans aucun suivi judiciaire particulier ? À Colmar, le constat est clair. Julie, Edwige et Jeanne-Marie ont été sacrifiées par la justice sur l'autel de la réinsertion. Certaines personnes réclament même le retour à la peine de mort et scandent « Qui tue un enfant doit mourir, que justice soit faite, Pierrot au poteau ». À la fin de la marche blanche, la mère de Julie, l'une des victimes, prend la parole.
Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est dans l'espoir qu'une chose aussi horrible ne se reproduise plus.
Sur les marches de la cour d'appel de Colmar, la mère de Julie s'adresse aux 5000 personnes qui viennent de défiler en silence.
Un grand, grand merci encore et bon retour, si possible, dans le calme et la sérénité, en pensant à toutes les victimes et surtout à ma Julie. Merci.
Pas de haine ni de colère, une manifestation dans la dignité pour honorer la mémoire de Julie, mais avec un message sur toutes les pancartes, halte à la récidive, plus jamais de monstre en liberté.
Pour comprendre l'émotion qui règne ce jour-là à Colmar, il faut revenir quelques jours en arrière. Nous sommes le vendredi 18 juin 2004. C'est le début de l'été à Rinaud, un village paisible niché au cœur de la vallée du Grand Ried alsacien. Il est midi. Chez les Quéglin, la table est dressée. Il ne manque plus que Jeanne-Marie, 11 ans. Elle est partie faire un tour de vélo dans le quartier, elle ne devrait plus tarder, se dit sa mère. À midi et demi, sans nouvelles d'elle, son grand frère part à sa recherche. Pendant de longues minutes, il sillonne les rues désertes de Rinaud sous un soleil de plomb, quand tout à coup, il tombe sur le vélo rose bonbon de sa petite sœur, posé là contre le grillage du terrain de tennis. Mais Jeanne-Marie, elle, est introuvable. Dès 14h, les gendarmes transforment le stade de foot du village en PC de crise. Un hélicoptère se met à tourner au-dessus de Rideau et les premiers journalistes arrivent sur place.
C'est la deuxième fois qu'ils fouillent ce champ. Jeanne-Marie a disparu à quelques centaines de mètres de là. Des bénévoles, chaque jour plus nombreux, participent aux recherches.
C'est de plus en plus dur.
Bah, ça va devenir de plus en plus difficile et il y aura de moins en moins d'espoir, mais il faut toujours y croire.
Juste en face du village de Rhino, l'Allemagne. Cet hélicoptère qui survole le Rhin recherche lui aussi un indice pour retrouver Jeanne-Marie. Aujourd'hui, la police allemande a déployé une centaine d'hommes sur les rives du fleuve. Sans résultat. À Rhino, tout le monde n'a plus que ce visage en tête. Lors de la messe ce matin, la petite fille de 11 ans était dans toutes les prières.
Des photos de Jeanne-Marie sont placardées dans toute la région. Le visage poupin, les cheveux mi-longs, l'air espiègle, la fillette fixe l'objectif. Une attente insoutenable pour les Quéglins qui se réfugient dans la prière. Quelques jours plus tard, alors que les recherches piétinent, un témoignage vient relancer l'enquête. Dans un village voisin, Hartelsheim, des enfants disent avoir vu le corps ensanglanté d'une petite fille dans la cour d'une maison occupée par des gitans. Détail capital. L'enfant avait un t-shirt gris et un pantalon bleu comme Jeanne-Marie le jour de sa disparition. La fillette est peut-être encore vivante, séquestrée par cette famille de gitans, se disent les enquêteurs. D'autant qu'ils ont le profil idéal, ces gens-là. Arrêtés à plusieurs reprises pour des vols et des conduites en état d'ivresse, les remetteurs vivent reclus dans une maison délabrée, en bordure du village, coincée entre le cimetière et les champs de maïs. À Hartelsheim, ces vanniers alsaciens ont très mauvaise réputation et certains habitants n'hésitent pas à cracher leur haine.
Quand ils avaient trop bu, je les voyais se battre à mains nues, comme des bêtes fauves. Certains sortaient même des couteaux. Il y a déjà du sang qui a coulé ici, vous savez. C'est qu'ils attirent le cauchemar, ces gens-là.
Leurs enfants ne vont pas à l'école. Ils sont tous illettrés. Ils mendient de la nourriture à travers le grillage. Et ils sont tellement sales que, si on les poussait contre le mur, ils y resteraient collés.
Les parents se lèvent à midi et vivent du RMI. Ils ne travaillent que la bouteille. C'est le quart monde. Ils vivent comme de véritables hommes des cavernes.
Quand ils arrivent chez les remetteurs, les gendarmes découvrent des voitures désossées, de la ferraille, des vélos rouillés. Dans la cour, de vieilles poupées jongent le sol entier abattu, mais aucune trace de Jeanne-Marie. Six membres du clan remetteur sont tout de même arrêtés pour être interrogés à la gendarmerie. Et très vite, le plus jeune craque. Le jour de la disparition de Jeanne-Marie, Balthazar, c'est son prénom, raconte avoir pris la route de Rhino avec son frère, Georges. Sous l'emprise de l'alcool, ce dernier aurait alors renversé la fillette. Pris de panique, il aurait ensuite chargé dans le coffre pour la ramener à Hartelsheim. Les autres membres du clan passent aux aveux et confirment les propos de Balthazar. Seul Georges continue de clamer son innocence. Dans les jours qui suivent, d'autres membres de la famille sont arrêtés, puis placés en détention provisoire. Et puis une autre famille de Vanier, les Furman, se retrouvent eux aussi dans le viseur des enquêteurs. Leur maison est fouillée, mais sur place, aucune trace ADN de Jeanne-Marie. Et sur la voiture de Georges Remetteur, aucune trace de choc. Alors, disent-ils la vérité, ces Vanier? D'autant que Balthazar est un déficient mental. Et au fil des interrogatoires, son témoignage devient vite confus, surtout très glauque. Dans une énième version, il raconte que les hommes du clan ont tous violé la fillette, les uns après les autres. Il l'aurait ensuite enterrée vivante, puis déterrée, pour finalement la jeter dans le Rhin. Sans aucune autre piste, et sous la pression médiatique et populaire, les gendarmes sondent le fleuve en vain. Le 22 juin, 4 jours après la disparition de Jeanne-Marie, l'enquête connaît un deuxième rebondissement. À quelques kilomètres de Rhino, dans le village d'Insinsheim, un corps est retrouvé au petit matin.
C'est sous ce petit pont de l'ancien lavoir, situé près de la forêt, à 50 mètres des dernières habitations, qu'un pêcheur a découvert ce matin le corps d'une jeune femme dans la rivière. Aussitôt alertés, les mêmes gendarmes qui mènent l'enquête sur la disparition de la petite Jeanne-Marie à Rhino se sont rendus sur place et ont bouclé le secteur pour procéder à des relevés de police scientifique et technique. Selon les premiers éléments, la jeune femme, retrouvée coincée sous un pilier de pont, a été étranglée avant d'être tuée de plusieurs coups de couteau. Une découverte troublante au moment où toute la France a le regard tourné vers Rhino.
Il ne s'agit pas de Jeanne-Marie, mais d'une femme de 38 ans, originaire de la région, Edwige Vallée. La veille, elle a été vue en train de danser le long des remparts de Bernay, en pleine fête de la musique, à quelques kilomètres de là. À la lecture du rapport d'autopsie, les gendarmes comprennent qu'ils ont affaire à un véritable psychopathe. Edwige a été poignardée à 24 reprises au bas-ventre. Armé d'un opinal numéro 10, le tueur a ensuite découpé méthodiquement ses organes génitaux alors qu'elle était encore en vie. Puis il l'a laissée agoniser face contre terre dans la rivière jusqu'à ce qu'elle meure noyée. En l'absence du sexe de la victime, les légistes ne peuvent l'assurer avec certitude. Mais pour les gendarmes, il n'y a pas de place pour le doute. Edwige a bien été violée, elle a même été droguée. Un puissant neuroleptique est retrouvé dans son sang. Deux jours plus tard, le vendredi 25 juin, soit une semaine après la disparition de Jeanne-Marie, une autre fillette se volatilise dans la région, près de Schirmeck. Vers 13h, Julie Charche, 14 ans, part de chez elle à vélo, direction le village voisin, pour passer l'après-midi chez une copine. À 19h, sa mère commence à s'impatienter. Le repas est prêt, sa fille n'est toujours pas rentrée. Françoise appelle donc sa copine, Maude, qui lui indique qu'elle a vu Julie pour la dernière fois à 17h. Elle repartait chez elle à vélo le long de la départementale 204. Françoise pense alors à un accident. Elle sait que cette route sinueuse à encaisser au fond de la vallée de la Bruche est dangereuse. Françoise se met alors à long chez la départementale pour fouiller les fossés et les broussailles à la recherche de sa fille aînée. Mais Julie reste introuvable.
Les voisins, le voisinage, tout le quartier a vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour me trouver ma Julie. Il faisait nuit, il faisait même froid sur la fin, je ne sais plus quelle heure il était. Ils ont été dans des endroits les plus sombres pour la chercher, vraiment. Je crois qu'ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient, tout le monde. Jeunes comme plus âgés.
Comme à Reno, une semaine plus tôt, la région se couvre d'avis de recherche. Comme à Reno, des battues sont organisées. Et comme à Reno, les journalistes ont droit au même point de presse des gendarmes. Les enquêteurs l'assurent à Françoise, il n'y a pas de lien entre la découverte du corps d'Edwige, la disparition de Jeanne-Marie et celle de sa fille, non. En vérité, ils veulent encore croire à une fugue. Dans les jours qui suivent, plusieurs témoignages viennent pourtant renforcer la thèse de l'enlèvement. Fanny, 19 ans, et Amandine, 18 ans, racontent toutes les deux la même chose aux gendarmes. Quelques jours avant les disparitions de Julie et Jeanne-Marie, un homme hirsute, cheveux poivre et sel, a tenté de les faire monter de force dans sa voiture, une Ford Escort blanche. D'autres témoins ont vu Julie discuter avec un homme le long de la départementale 204 le jour de sa disparition. Un homme au volant d'une Ford Escort blanche. Grâce à ces témoignages, les gendarmes remontent la piste de ce rôdeur. Et le 26 juin, il est placé en garde à vue. Le bras en écharpe et un œil au beurre noir, ce braconnier de 57 ans dit s'être malencontreusement blessé à la chasse. Et face aux enquêteurs, il a réponse à tout. Il a même un alibi. Après 48 heures de garde à vue et devant l'absence de preuves solides, le juge d'instruction doit se résoudre à le relâcher. Le 28 juin, trois jours après la disparition de Julie, l'enquête s'accélère. Sur les hauteurs de Schirmeck, un randonneur tombe sur un vélo à moitié immergé dans un torrent, en contrebas de l'ancien camp de concentration d'Struthof. Et c'est le vélo de Julie. Le lendemain, un deuxième corps est retrouvé à quelques kilomètres de là.
À Valve, tout le périmètre a été bouclé. Un lotissement de quelques maisons isolées longé par un cours d'eau. À 800 mètres de là, les hommes de l'Institut de recherche criminelle sont au travail. Le corps de Jeanne-Marie vient d'être découvert.
Trois enfants qui jouaient à proximité ont découvert le corps dénudé d'un autre enfant en état de décomposition. A priori, il s'agirait plutôt d'un corps déposé ici, puisqu'il s'agit d'un petit ruisseau qui n'est pas profond. On ne peut pas penser que ce soit l'eau qui aurait charrié le corps.
Sur la berge, près du ruisseau, les vêtements découpés de Jeanne-Marie et des cordelettes bleues juste au sol. Le corps de la fillette est méconnaissable. Comme Edwige, elle a été éventrée et probablement violée avant de mourir noyée. Quant à son sexe, il lui a aussi été prélevé par le tueur, comme on vide un gibier, précise le légiste. Sur place, des témoignages retiennent l'attention des enquêteurs. La veille, plusieurs habitants de Valve sont passés le long de ce cours d'eau. Et ils sont catégoriques, il n'y avait pas de corps. Ce qui veut dire qu'il a été déposé dans la nuit. La piste des vanniers d'Artelsheim, déjà fragilisée par leurs multiples versions, s'effrite un peu plus. Comment, en effet, aurait-il pu déposer le corps de Jeanne-Marie Avalf alors qu'il se trouve depuis plus d'une semaine derrière les barreaux? Les gendarmes doivent se rendre à l'évidence. Celui qui a massacré Edwige est le même qui s'est acharné sur Jeanne-Marie. D'autant que les victimes ont les mêmes traits juvéniles. Edwige avait certes 38 ans, mais elle en faisait 20 de moins, disent ceux qui la connaissent. L'assassin a donc pu la prendre pour une adolescente. Parmi les journalistes, certains commencent à faire le rapprochement entre les deux meurtres et la disparition de Julie. Et si un tueur en série rôdait dans la vallée du Grand Ried alsacien? Le 30 juin, alors que le pays a les yeux rivés sur l'Alsace, une dépêche de l'agence France-Presse tombe dans toutes les rédactions parisiennes. Un homme vient d'être arrêté sur un terrain vague à Bourghem. Et il s'agit du même homme qui avait été placé en garde à vue quelques jours plus tôt. Le soir, son visage est à la une de tous les JT.
Pierre Baudin sort du tribunal de Saverne muni d'un gilet pare-balles. L'agresseur présumé de Julie a été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou, a un lourd passé judiciaire à son actif. Multirécidiviste, il a commis en 1996 une série de 15 crimes et délits en deux jours après s'être évadé d'un hôpital psychiatrique.
La jeune Julie n'a pas encore été retrouvée. Et le contexte nous conduit à être pessimiste sur le sort de la jeune fille. Wise man and a fool, side by side, which one is you? Fool I played once before, that was then, and this is new. Yeah.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Pierre Bodin, dit Pierre Oulfou.
Affaires Sensibles.
Madame, Monsieur, bonsoir. Macabre découverte ce matin. Après 8 jours d'intenses recherches, le corps à moitié dévêtu de Julie, 14 ans, a été retrouvé dans un cours d'eau près de Nothalten par un viticulteur. L'adolescente avait disparu le 25 juin dernier à Schirmeck. Le principal suspect, Pierre Bodin, dit Pierrot le Fou, nie toujours toute implication. Il a été mis en examen et écroué jeudi.
Fabrice Drouel.
Samedi 3 juillet 2004. Le corps supplicié de Julie vient d'être découvert au milieu de vignes alsaciennes, immergé dans une rivière, caché sous une tôle d'acier. Une mort par noyade, des lacérations barbares post-mortem au niveau du sexe. Le rapport d'autopsie est le même que celui d'Edwige et Jeanne-Marie, à une exception près tout de même, du sperme cette fois, est retrouvé sur l'adolescente. Mais les analyses ne permettent pas d'isoler un ADN. Le corps a passé trop de temps immergé dans l'eau. Depuis sa cellule, Pierre Bodin l'assure. Après avoir passé plus de la moitié de sa vie en prison pour des hold-up, il est un braqueur en quête de rédemption, pas un violeur de petites filles, et encore moins un tueur en série. Pourtant, les preuves sont accablantes. Son sang a été retrouvé sur le vélo de Julie. À quelques mètres du lieu de cette découverte, les gendarmes sont aussi tombés sur des débris qui correspondent en tout point au phare arrière gauche de la voiture de Bodin, une Ford Escort blanche. Et dans cette même voiture, ils ont découvert une chaussette maculée du sang de Julie. Ça fait beaucoup. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs font d'autres découvertes capitales. En étudiant la téléphonie de Bodin, ils constatent que le 18 juin à 11h34, soit quelques minutes avant la disparition de Jeanne-Marie, son portable a borné à Rhino. Dans la caravane où il vivait, l'ADN de la fillette est retrouvé sur une serviette et sur un couteau à cran d'arrêt. Quant à Edwige, c'est un cheveu et un Opinel numéro 10 qui permettent de confondre Pierre Bodin. En fouillant sa caravane, les gendarmes vont faire une ultime découverte. Sous un coussin, ils tombent sur une feuille A4 sur laquelle Bodin a dessiné avec une extrême précision l'anatomie d'un sexe féminin. Et cette fois, les enquêteurs se disent « ça y est, on tient ». Maintenant, comment un braqueur multirécidiviste, qui n'était pas fiché comme délinquant sexuel, est-il devenu en l'espace de quelques semaines un chasseur de petites filles assoiffé de sang, obsédé par la virginité? Pour comprendre pourquoi cette facette de Pierre Bodin a pu passer sous les radars de la justice, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Début des années 50, Aubernais, rue de la Justice. Mais oui. C'est là, au sud de Strasbourg, que grandit Pierre Bodin avec ses 16 frères et sœurs. Les Bodins sont des yéniches, des gens du voyage sédentarisés. Sa mère, Marie, est une femme au foyer. Il lui voue un culte absolu et la compare même à la Vierge. Son père, Georges, est maçon. Pour les seuls moments qu'il passe avec lui, c'est à la cave pour s'occuper de l'élevage de lapins. Le paternel lui apprend à les tuer, à les écorcher, puis à les éviscérer. Et il y prend goût, le jeune Bodin. Les week-ends, il part chasser de longues journées en forêt, seul, fusil à l'épaule et couteau à la ceinture. Interrogé en 2005 par une équipe d'envoyés spéciales, ses voisins se souviennent d'un jeune sans histoire. Un grand classique dans ce genre d'affaires. Vous avez remarqué? Vu du voisinage, les tueurs sont souvent de gentils garçons, genre qui ne feraient pas de mal à une mouche.
C'était un beau gamin, un beau jeune homme. Avec sa tignasse, bon, comme il avait le teint un peu mat, alors bon, c'était l'Hidalgo qui avait pas mal de succès avec les filles. C'était pas le gars qui se mettait en avant pour mener, pour lancer, pour démarrer des trucs. Hein. Pour ça, je qualifierais presque à l'époque de discret. C'était discret.
Vous vous souvenez des Bodins?
Ah oui, oui. Pierrot le Fou, il n'est pas plus fou que vous et moi. Hein. Non, mais ils étaient 17 enfants.
En 1965, quand il a 17 ans, la vie de Pierre Bodin bascule. Il est victime d'un accident de voiture et passe 3 mois dans le coma. À son réveil, ses proches le disent « changé ». Bodin, le braconnier, se découvre alors des talents de cambrioleur. En 1969, il fait un premier séjour en prison pour vol et délit de fuite. À sa sortie, il gravit rapidement les échelons et se retrouve chef de bande, auteur d'une série de braquages ultra-violents en Alsace. Et au fil de ses séjours en prison, Baudin va se tailler un personnage, celui du fou, stratégie bien connue pour éviter la sanction pénale. En décembre 75, il vient d'être incarcéré à Strasbourg. Et rapidement, son comportement attire l'attention des surveillants. Dans la cour de promenade, il longe les murs en frottant le dos de sa main contre le crépi, tout en fixant les autres détenus, le pantalon maculé de sang. Décision est donc prise de l'envoyer en hôpital psychiatrique, où il sombre brusquement, selon les psychiatres, dans une schizophrénie catatonique. Quelques années plus tard, en 89, il est une nouvelle fois incarcéré pour avoir commis 16 braquages en moins d'un an. Au parloir, il reçoit la visite d'un énième psychiatre, le docteur Henri Brunner.
Il était extrêmement agité et logoréique, comme nous disons, c'est-à-dire qu'il parlait tout le temps. Il se liloquait sans tenir compte de rien du tout, ni de moi, ni de l'extérieur. Il répétait qu'il n'était pas fou et il reconnaissait les faits, mais d'une façon incohérente. Il disait à peu près « Oui, j'ai volé, on m'a dit que j'avais volé, c'était pour acheter un hélicoptère, etc. » Alors mon sentiment à moi, c'est que j'ai affaire à un fou. J'ai conclu qu'on était en présence d'une maladie mentale, psychotique, qui permettait pas à l'intéressé de répondre de ses actes et qui nécessitait non pas la prison mais l'hospitalisation.
Décembre 1992, hôpital psychiatrique d'Arnstein. Cela fait maintenant 18 mois que Pierre Baudin végète dans un fauteuil roulant, plongé dans un état régressif complet. Il tapisse les murs de sa chambre d'excréments et va jusqu'à manger ses propres matières fécales. Les infirmières doivent même le longer dans son lit après lui avoir donné ses repas à la petite cuillère. Mais le 11 décembre 92, miracle. Baudin retrouve l'usage de ses jambes, saute d'une fenêtre et s'échappe de l'hôpital psychiatrique. Pendant 72 heures, il va semer la terreur dans la région. Il vole une voiture, braque une armurerie, puis une banque. Il force plusieurs barrages routiers et blesse grièvement un policier à la tête. Sur sa route, il kidnappe également plusieurs personnes, dont une femme qu'il viole à deux reprises au milieu des vignes. Après 3 jours de traque, les gendarmes retrouvent enfin sa trace dans les méandres de la forêt vosgienne, épaulée par les hommes du GIGN.
Ouf de soulagement pour les plus de 150 hommes mobilisés à sa recherche, car depuis hier soir, le plan Épervier se mettait en place. Policiers, gendarmes, 2 brigades cynophiles et un hélicoptère. Une véritable chasse à l'homme pour retrouver cet homme de 45 ans, un forcené échappé vendredi dernier du centre hospitalier d'Erstein, où il était entré le 24 juin dernier. Il a été retrouvé par un chien d'une équipe cynophile. Il est actuellement hospitalisé à Strasbourg.
Cette cabale lui vaut une renommée nationale ainsi qu'un surnom, celui de Pierrot le fou, en référence au film de Jean-Luc Godard. Mais pour les psychiatres, Baudin n'est pas fou. C'est un grand simulateur. Il est donc éligible pour être jugé et surtout, éventuellement, condamné. Le 15 mars 1994, son procès s'ouvre devant la cour d'assises de Colmar. Les journalistes sont présents en nombre dans la salle. L'un d'eux dit même s'attendre à voir débouler Belmondo dans le box des accusés. Mais Pierre Baudin n'a rien d'un braqueur romantique. C'est en réalité un vieux monsieur ventripotent, pris de tremblements, qui se déplace comme un crabe, le visage criblé de tics, apeuré, dit-il, par des souris blanches qui courent sur les murs. Et quand le président de la cour lui demande de décliner son identité, il répond « J'ai un chevreuil dans ma voiture ». Au bout du compte, 4 experts psychiatres concluent à la folie, 6 à la simulation. Le 19 mars, le verdict tombe, 30 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont vu clair dans le jeu de Pierrot le fou, ou plutôt de Pierrot le simulateur. Mais le soulagement est de courte durée pour les victimes. Car dans les jours qui suivent, l'avocat de Baudin s'engouffre dans un vice de procédure et fait annuler le verdict. Pierre Baudin est donc rejugé 2 ans plus tard aux assises de Strasbourg.
Du jamais vu, ce matin, devant la cour d'assises de Strasbourg, il est 9h, Pierre Baudin fait son entrée dans le box des accusés, et là, devant les jurés et 30 témoins médusés, une voix qui résonne. Pierrot le fou parle, lui qui il y a 2 ans à Colmar était incapable de s'exprimer, sinon par quelques mots incohérents en alsacien, est d'un seul coup devenu bavard, presque lyrique. Écoutez-le, il va même prendre notre caméra à témoin.
Je ne suis pas Pierrot le fou, un assassin.
Pierre Le Fou qui a tiré sur les policiers les chantards. En l'ange, j'ai pas grand. Moi, j'ai rien de fou, j'ai 3-4 métiers. J'ai travaillé 25 ans. J'ai père de famille, je suis pas violeur non plus.
À la barre, Pierre Bodin est métamorphosé. Verbe haut, croix en évidence, autour de cou, il dit avoir rencontré Jésus en prison. Et d'une voix mielleuse, il présente ses excuses aux victimes et promet qu'il peut changer. Puis vient le défilé des experts psychiatres, tous plus confus les uns que les autres. L'un d'eux déclare même « Il y a 2 ans, quand je l'ai vu, il était fou, aujourd'hui il ne l'est plus. » Mais l'avocat des parties civiles, Thierry Moser, n'est pas dupe. Derrière Bodin, Mr. Hyde, il y a bien le docteur Jekyll et vice-versa.
Je voudrais que les jurés ne soient pas abusés par le jeu déplaisant et malsain, ce jeu de la duplicité que pratique avec un talent consommé Pierre Bodin. À Colmar, c'était Pierrot le fou. À Strasbourg, c'est Pierrot le lucide, Pierrot le repenti, Pierrot l'assagi. La partie civile pense que c'est une comédie tout à fait déplaisante et j'ose espérer que les jurés ne seront pas induits en erreur par ce stratagème que je me suis employé à dénoncer.
À l'issue du procès, Pierre Bodin est condamné à 28 ans de prison. Mais dans un énième recours devant la Cour de cassation, son avocat parvient à trouver un autre vice de procédure. Condamné en première instance à 30 ans, sa peine est finalement ramenée automatiquement à 20 ans. En prison, Bodin continue de soigner son personnage de repenti. Il travaille pour dédommager ses victimes, assiste tous les jours à la messe et gagne même le concours de poésie, mais oui. Il décore aussi sa cellule avec des statues de la Vierge Marie, ainsi que des photos de ses 4 enfants. Et puis il se découvre une passion pour la peinture. Sur ses toiles, il imagine un univers idyllique, tel un jardin d'Éden où des chevreuils gambadent en liberté dans une forêt luxuriante. Touchant, non ? Mais depuis sa cellule, Bodin l'artiste n'écrit pas seulement des poèmes. Il envoie aussi des lettres à une certaine Marie, âgée de 9 ans, la fille de son codétenu. Dans ses courriers obscènes, où il remplace les points par des étoiles, Bodin fait part de ses fantasmes sexuels les plus glauques, obsédé qu'il est par la virginité. En guise de signature, il termine chacune de ses lettres par ces mots « Marie, je t'aime à te tuer ». Son codétenu prévient alors la prison, mais l'institution judiciaire reste sourde.
Il était obsédé par ça. Il ne me cachait pas ses intentions, quoi, en particulier celle d'enlever ma fille, de... et que personne ne pourrait l'en empêcher, quoi, même pas moi. Donc je me préparais uniquement à ça. Quoi. Et j'ai vu que personne autour se manifestait, personne nous a aidés.
Chaque année, Bodin, le détenu modèle, continue de bénéficier de remises de peine et même de grâces présidentielles. Et le 15 mars 2004, après avoir passé 13 ans derrière les barreaux, il obtient une libération conditionnelle et sort de la prison d'Ensisheim. Pour prendre sa décision, le juge d'application des peines s'est notamment basé sur l'expertise d'un psychiatre qui écrit fin 2003 « Bodin est sain, poli, ouvert et affable, juste caractériel ». Pourtant, le juge doit avoir que Bodin est un grand simulateur. Il le sait, il a lu les lettres obscènes envoyées à la jeune Marie. Il sait aussi qu'il a été condamné pour un viol, commis lors de sa cavale en 92, mais également pour un autre viol, 19 ans plus tôt. À l'époque, la victime avait déclaré aux enquêteurs « Avant de me violer, il m'a dit « Si tu cries, je te tuerai et je jetterai ton corps dans la rivière ». Quant aux ex-femmes de Pierre Bodin, elles dressent toutes le portrait d'un homme violent, obsédé par le sexe, allant jusqu'à exiger plus de 15 rapports par jour. L'une d'entre elles a même fait cette confidence glaçante aux gendarmes. Un jour, il m'a dit que si je mourais avant lui, il ferait l'amour une dernière fois avec mon corps inanimé pour me dire adieu. Malgré tous ces éléments, aux yeux de la justice, Bodin n'est pas un délinquant sexuel en puissance, non, c'est un braqueur en quête de rédemption. Quand tous ces éléments sont révélés dans la presse, les familles de Julie, Edwige et Jeanne-Marie exigent des explications. Et la justice va leur en donner le 5 novembre 2004.
C'est une sorte de première judiciaire qui s'est déroulée hier soir à Schirmeck. 3 procureurs, 2 avocats, 1 commandant de gendarmerie sont venus s'expliquer publiquement sur l'enquête concernant Julie, mais aussi sur le fonctionnement de la justice.
On le savait, dangereux. Pour quelque raison que ce soit, il a été mis en liberté alors qu'on le savait dangereux. C'est ça que j'ai beaucoup de mal à accepter.
Madame Church, on remet tous les jours en liberté des gens dangereux. Car les peines...
Une réponse du procureur général qui choque.
Car les peines ont un terme, car les peines ont une fin.
Il n'y a pas eu de dysfonctionnement de la justice, mais la simple application de la loi.
Malgré cette réunion, qui est une première dans l'histoire judiciaire, une pétition est lancée. Objectif, changer la loi pour empêcher la récidive des criminels les plus dangereux en instaurant une perpétuité réelle. Fin 2004, la mère de Julie crée même une association pour porter ce combat. Quant à l'instruction, elle suit son cours. Pendant plusieurs mois, des reconstitutions sont organisées pour tenter d'en savoir plus sur le déroulé des meurtres, et notamment sur le rôle des Vanier dans l'enlèvement et le meurtre de Jeanne-Marie. Mais tout cela ne donne rien, et les enquêteurs restent dans l'impasse. Le mercredi 11 avril 2007, après 3 ans d'attente, le procès s'ouvre enfin à Strasbourg. En début de matinée, Pierre Bodin, gilet pare-balles sur le dos, fait son entrée dans le box des accusés, entouré par les hommes du GIPN.
Costume sombre, chemise blanche, cheveux longs grisonnants, Pierre Bodin se présente à son procès sous son meilleur jour. À ses côtés, 16 co-accusés, des nomades sédentaires, accusés les uns d'avoir participé au viol, au meurtre, les autres d'avoir fermé les yeux, de s'être tués. Face à eux, un autre monde, les parents de Jeanne-Marie, âgés de 11 ans, son frère, sa sœur. Les proches de Julie, 14 ans. Ceux d'Edwige, 38 ans. Pierre Bodin, pour eux, n'était qu'un nom, une photo, un dossier. Ce matin, ce fut enfin un visage.
À la barre, Bodin continue de nier. Pour lui, tout ça n'est qu'un complot de gendarmes. Quant aux 16 Vanier suspectés de l'avoir aidé dans l'enlèvement et l'assassinat de Jeanne-Marie, leurs versions sont toujours aussi confuses, 3 ans après leurs aveux. Il faudra attendre la fin du procès et le témoignage d'un enquêteur pour dissiper les doutes des jurés. Ils ont fait les aveux que nous voulions, déclare le gendarme à la barre. Ils étaient prêts à tout pour qu'on les laisse tranquilles, conclut-il. Le 11 juillet 2007, après 3 mois de débat, le verdict tombe.
Il a 59 ans, il est considéré comme l'un des pires tueurs en série de ces dernières années et il est resté impassible à l'énoncé du verdict. Pierre Bodin a donc été condamné à la perpétuité en début d'après-midi, dont 30 ans incompressibles par la cour d'assises de Strasbourg. Ce verdict n'est pas une surprise, il était attendu par les familles des victimes.
À l'énoncé du verdict, les Vanier laissent éclater leur joie. Ils sont tous acquittés. 7 d'entre eux savourent leur liberté retrouvée après avoir passé 3 ans en prison. Pour rien. Quant à Pierre Bodin, il entre définitivement dans l'histoire judiciaire en devenant le premier condamné à la perpétuité incompressible en France, la peine la plus lourde prévue par le code pénal. À la barre, Françoise, la mère de Julie, avait terminé sa déclaration par ces mots. « Je ne crois toujours pas en Dieu, mais je crois au diable. Ma fille l'a rencontré. Il s'appelle Pierre Bodin. »